Les nombreux défauts de Mister PIB. Maintenant que vous maîtrisez le calcul du PIB sur le bout des doigts, il est temps de s'attaquer aux nombreuses limites et imperfections de cet indicateur. Mister PIB veut toujours plus de neuf. Supposez que vous achetez une maison que vous faites construire. Une nouvelle richesse est produite et, par votre dépense, vous rémunérez les ouvriers qui la construisent et les actionnaires propriétaires de l'entreprise mandatée. Tous les éléments du calcul du PIB sont mobilisés. Vous avez effectué une dépense, vous avez rémunéré des travailleurs et des capitalistes, et une nouvelle richesse vient d'être créée, la maison. Si, en revanche, vous achetez une maison d'occasion, il vous manque un élément pour déclencher le compteur du PIB. En effet, aucune nouvelle richesse n'a été produite à la suite de votre dépense. Vous avez transféré une partie de vos promesses de mise à disposition de billets sur le compte d'un autre particulier. Mais la maison que vous avez obtenue en échange existait déjà auparavant. C'est une vieille richesse qui a participé à l'augmentation du PIB dans le passé. Or, le PIB est un indicateur qui s'intéresse aux nouvelles richesses créées, dont une partie est ajoutée à une pile qui grossit d'année en année. Les richesses de cette pile peuvent ensuite s'échanger sur un marché de l'occasion. Comme toutes les dépenses qui servent aux échanges d'occasion ne permettent en aucun cas l'augmentation de la pile de richesses sur laquelle est assise l'humanité, le marché de l'occasion, aussi dynamique soit-il, ne permet pas l'augmentation du PIB. Attention, il ne s'agit pas de dire que les échanges d'occasion sont inutiles, mais simplement qu'ils ne contribuent pas à l'augmentation du PIB, ou en tout cas pas directement. En effet, lorsque Jacques et Jean s'échangent une maison déjà construite pour un montant de 100 000 euros, en utilisant les services d'une agence immobilière qui prélève 5% de cette valeur, 5 000 euros vont venir rémunérer les employés et les actionnaires de cette agence. Dans cet exemple, sur les 100 000 euros dépensés, seulement 5 000 participent à l'augmentation du PIB. Ainsi, les échanges d'occasion participent en partie au PIB. Mister PIB mesure l'enrichissement, mais pas la richesse. Le PIB mesure le flux de nouvelles richesses créées, dont une partie est ajoutée à la pile de richesses sur laquelle est assise l'humanité. Ainsi, il ne mesure pas la richesse, tout ce que l'on possède collectivement, mais plutôt la vitesse à laquelle nous nous enrichissons, toutes les nouvelles richesses créées dans l'année. Autrement dit, le PIB mesure un débit, un flux et pas un stock. Cela signifie que la croissance économique, aussi connue sous le nom de croissance du PIB, ne signifie pas seulement que nous nous enrichissons, mais aussi que nous nous enrichissons toujours plus vite, année après année. Cela signifie-t-il que les crises économiques, marquées par des périodes de stagnation voire de diminution du PIB, doivent être associées à de simples périodes de stagnation voire de ralentissement de la vitesse d'enrichissement de l'humanité? Cela est-il si terrible de s'enrichir moins vite que d'habitude? Doit-on en déduire que nous sommes une espèce richissime, obnubilée par l'accumulation toujours plus rapide de nouvelles possessions matérielles, et dont l'organisation perd pied dès qu'elle doit faire avec ce qu'elle possède déjà, stock de richesses, plutôt qu'avec ce qu'elle crée, PIB? La réponse est que le PIB est un indicateur imprécis et incomplet, dont la seule observation ne permet pas de répondre à de tels questionnements. Imaginez un instant que toutes les richesses produites par l'humanité soient représentées par de l'eau qui coule d'un robinet. La mesure du PIB correspondrait au débit du robinet, tandis que le stock de richesses correspondrait à la quantité d'eau dans une baignoire. L'humanité pourrait-elle fermer le robinet du PIB une bonne fois pour toutes et vivre simplement avec l'eau déjà présente dans la baignoire? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'eau qui coule du robinet correspond à l'eau potable que l'humanité doit régulièrement boire pour rester en vie. Pensez à toutes les activités agricoles, de pêche et d'élevage qui produisent la matière première qui nous nourrit. Pensez également aux activités de transformation et de transport de cette nourriture qui doivent être maintenues pour notre survie. Si on ferme le robinet, l'humanité va finir par mourir de soif. L'eau de la baignoire doit également régulièrement être évacuée car elle se salit. Pensez à toutes les activités de réparation et d'entretien de tout ce que l'on possède déjà. Sans ces activités, notre stock de richesses se dégrade. Enfin, une partie de l'eau qui coule du robinet s'évapore immédiatement. Pensez aux services qui sont des richesses qui participent au PIB mais qui ne se stockent pas. En réalité, le PIB mesure un flux de richesses dont certaines sont essentielles à notre survie ou tout du moins au maintien de notre mode de vie actuel. Les trois secteurs d'activité créateurs de richesses. En premier lieu, il faut bien comprendre que ce qui permet physiquement la création de richesses, c'est l'utilisation conjointe de trois facteurs. L'environnement, une partie du stock de richesses produite dans le passé, une force de travail. L'environnement fournit à l'humanité de nombreux services. Air respirable, température vivable, terre fertile, écosystème stable, espèces animales domesticables, eau douce, et matières premières, bois, métaux, céréales, poissons, viande, indispensables à la création de nouvelles richesses. L'humanité peut également compter sur toutes les richesses, outils, machines, connaissances, infrastructures, bâtiments, qu'elle a déjà produites dans le passé pour l'aider à produire de nouvelles richesses. Je représente ce facteur par la combinaison d'un moteur, nos machines et outils, et d'un cerveau, nos connaissances. Les économistes ne distinguent en général que deux facteurs au lieu de trois. Selon eux, tout ce qui ne correspond pas à la force de travail de l'humanité s'appelle du capital, à ne pas confondre avec le capital des comptables, qui correspond à la différence entre la taille de la colonne actif et celle de la colonne dette. Cela dit, la distinction entre richesses produites dans le passé et richesses fournies par l'environnement me semblent essentielles pour comprendre les défis que l'humanité doit relever, et nous y reviendrons. Ces trois facteurs sont utilisés pour produire de nouvelles richesses que comptabilise, mal comme nous allons le voir, le PIB. Ce PIB se divise en trois secteurs d'activité. Le secteur primaire, qui correspond aux activités minières, agricoles, de pêche et de sylviculture. Vous ne savez pas ce qu'est la sylviculture ? Laissez-moi vous économiser un détour par Google, il s'agit de la gestion des forêts. Le secteur secondaire, qui correspond aux activités manufacturières, alimentation, textile, métallurgie, meubles, véhicules, et de construction, routes, ponts, bâtiments. Le secteur tertiaire, qui correspond aux activités de services, soins, éducation, sécurité, justice, transport, recherche, finance, commerce. Toutes ces richesses ne se stockent pas nécessairement. Seules les connaissances acquises et les machines et infrastructures issues du secteur industriel participent à la création de la pile de richesses à laquelle l'humanité a accès. Notez également que je considère que les connaissances acquises émanent de tous les secteurs d'activité et pas simplement du secteur officiel de la recherche académique, qui fait partie du tertiaire. En effet, chacun d'entre nous gagne en expérience dans son domaine d'activité, et les entreprises financent aussi de nombreux programmes de recherche et développement. Les services et les matières premières sont de véritables richesses comptabilisées dans le PIB, mais les premières ne se stockent pas, et les secondes sont transformées par le secteur industriel. L'importance des différents secteurs en termes de valeur, donc de PIB, n'a rien à voir avec leur importance en termes d'utilité. Un litre d'eau potable, pourtant essentiel à la survie d'une personne, coûte beaucoup moins cher qu'un lingot d'or dont la nécessité semble bien futile lorsqu'il s'agit de survie. Le PIB mesure des valeurs d'échange qui se définissent en fonction de la difficulté de production et de la disponibilité, offre, ainsi que de la volonté d'achat, demande. La nécessité ou l'utilité pratique des richesses, qui entrent dans la composante de la volonté d'achat, demande, ne sont qu'une partie de l'équation de la valeur. Ainsi, alors que les secteurs primaires, secondaires et tertiaires représentent respectivement 15%, 25% et 60% du PIB mondial, il est plus ou moins admis qu'en termes de nécessité, les différents secteurs se hiérarchisent comme tels. D'abord, le secteur primaire, parce que sans matière première ni énergie, on ne mange pas, les machines ne fonctionnent pas et on ne dispose d'aucun matériau pour construire quoi que ce soit. Puis le secteur secondaire, parce que les matières premières sont beaucoup plus utiles une fois recombinées pour satisfaire nos besoins et nos envies. Enfin, le secteur tertiaire, parce qu'une fois qu'on dispose de systèmes d'extraction et de transformation des matières premières fonctionnelles, on peut se libérer du temps pour se consacrer à leur amélioration, ainsi qu'à d'autres activités telles que la culture, le divertissement, la recherche académique, etc. Il ne faudrait pas non plus croire que les secteurs primaires et secondaires n'ont pas besoin du secteur tertiaire pour fonctionner correctement. Par exemple, la production de nourriture passe par le secteur primaire, agriculture, pêche et élevage, puis par le secteur secondaire, transformation de ces matières premières afin de les rendre consommables, puis par le secteur tertiaire, transport et commerce. Notre monde fonctionne grâce à de longues chaînes logistiques. Si un seul maillon saute, cela peut provoquer l'arrêt de la production dans son ensemble. Ainsi, en 2011, à la suite du tsunami qui a frappé le Japon, une usine de capteurs d'écoulement d'air utilisée dans la fabrication d'automobiles a été lourdement endommagée. Parce que cette seule usine fournissait 60% du marché mondial, de nombreux ouvriers dans le monde entier se sont retrouvés au chômage technique. Sans ces capteurs d'écoulement d'air, on ne pouvait tout simplement plus fabriquer de nouvelles voitures. Malgré la complexité et l'interdépendance de notre système de production de richesses, certaines chaînes logistiques sont pourtant plus importantes que d'autres. Au commencement était l'énergie. Notre activité économique est impossible sans énergie. Par énergie, je désigne tout ce qui permet une transformation du monde. Lorsque vous déplacez une chaise dans votre salon, lorsque vous démarrez le moteur de votre voiture, lorsque vous réfléchissez à ce que vous allez faire pendant vos prochaines vacances, vous transformez le monde. La chaise change de place, les pièces du moteur se mettent à bouger, la structure biochimique de votre cerveau est modifiée. Tout cela est impossible sans énergie. Or, contrairement à la monnaie, cette énergie ne peut pas être créée à partir de rien. C'est une des lois de la thermodynamique. L'humanité, pour transformer le monde, n'a pas d'autre choix que de se servir de l'énergie que la nature met à sa disposition. S'il est possible de transformer de l'énergie, l'énergie chimique de vos jambes est transformée en énergie électrique via une dynamo pour faire fonctionner les feux de votre vélo, celle-ci ne peut pas être créée ex nihilo. Il y a donc deux types d'énergie qui sont absolument centraux pour que nos activités soient possibles. Celles qui nous nourrissent et celles qui nourrissent les machines que nous fabriquons. Les premières reposent sur les activités agricoles, de pêche et d'élevage, tandis que les secondes reposent sur les activités d'extraction. À l'heure actuelle, 85% de l'énergie qui fait fonctionner nos avions, voitures, camions, bateaux, téléphones, ordinateurs, ampoules et j'en passe, est produite à partir de la combustion de pétrole, de gaz et de charbon. Énergie primaire et énergie secondaire. L'énergie dite primaire est l'énergie que l'on peut récupérer directement dans l'environnement. Rappelez-vous, l'énergie ne peut pas se créer. Par exemple, le bois, le charbon, le pétrole et le gaz sont des sources d'énergie primaire, car on peut les trouver directement dans la nature. L'électricité et l'hydrogène sont des énergies secondaires ou finales, car elles sont indisponibles sous cette forme sur la planète Terre, à moins de se brancher directement aux éclairs. Mais techniquement, c'est pas évident. Et il faut donc passer par l'utilisation d'énergie primaire pour les produire. L'électricité dans le monde est produite en brûlant du charbon, 38%, du gaz, 23%, du pétrole, 3%, et en utilisant l'énergie cinétique de l'eau grâce à des barrages, 16%, la fission nucléaire, 10%, et les rayons du soleil et le vent, 10%. Autrement dit, les richesses enregistrées dans le PIB qui sont issues du secteur primaire sont absolument primordiales. Si leur production ralentit, les humains et les machines mangent moins et donc produisent moins dans tous les autres secteurs. Zoom sur une énergie oubliée. Je voudrais prendre un moment pour vous parler un peu de cette énergie que l'on utilise si naturellement à chaque tour de clé et pression de bouton sans se rendre compte qu'elle est là. Savez-vous quelle quantité d'énergie vous êtes capable de générer avec vos bras et vos jambes? L'homme le plus fort du monde, dont nous allons arrondir le poids à 110 kg, est capable de soulever 500 kg de fonte sur une hauteur de 50 cm. Cela représente un changement de l'état du monde qui nécessite 3000 joules d'énergie. Parce que cet exploit est réalisé en 2 secondes, on peut en déduire que la puissance fournie par notre homme le plus fort du monde est de 1500 watts. En d'autres termes, notre colosse peut faire fonctionner un fer à repasser pendant 2 secondes. Ensuite, il faut qu'il se repose 5 à 10 minutes avant de pouvoir répéter son effort et donc fournir à nouveau, pendant 2 secondes, la puissance nécessaire au fonctionnement d'un fer à repasser. Imaginons également qu'il reproduise son exploit toutes les 5 minutes, 10 heures par jour, pendant 7 jours. Cela permettrait de stocker 700 watt-heures d'énergie. Cela correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner un petit grille-pain pendant une heure, de quoi toaster 60 tartines, ou une petite machine à laver pendant 30 minutes, une lessive en cycle court. Avouez que c'est quand même un poil décevant. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube qui confronte un grille-pain d'une puissance de 700 watts connecté à un vélo d'appartement et un champion de cyclisme sur piste. Le champion, capable de propulser son vélo à plus de 80 km/h, réussira-t-il à fournir la puissance nécessaire pour griller une tartine de pain? La réponse est « à peine ». Même un champion de cyclisme ne peut pas fournir une puissance de 700 watts pendant plus de quelques secondes. Or, il faut 700 watts de puissance en continu pendant 3 minutes pour griller complètement une tartine de pain. Tout ça pour dire que nous sommes peu de choses au regard de la puissance des machines que nous utilisons tous les jours. En rapportant la consommation énergétique moyenne mondiale par personne, la consommation issue du chauffage, des appareils électriques, des transports, des machines industrielles, etc., à la capacité musculaire d'un être humain, on considère que le métabolisme humain peut fournir 500 watt-heures d'énergie utile par jour, on tombe sur un ratio de 110 pour 1. Nous utilisons donc en moyenne chaque jour, par le biais des machines qui nous entourent, 110 fois plus d'énergie que ce que nous serions capables de fournir si nous passions nos journées à pédaler sur des vélos. Chaque habitant de cette planète possède donc en moyenne l'équivalent de 110 esclaves énergétiques pour l'assister dans son travail et assurer son confort au quotidien. S'agissant d'une moyenne, ce nombre ne nous dit rien sur les énormes inégalités d'utilisation de l'énergie. Pour y voir plus clair, le nombre d'esclaves énergétiques se porte à 430 aux États-Unis, 220 en France, 40 en Inde et à peine 10 au Niger. Des esclaves robotisés qui consomment essentiellement du pétrole, du charbon et du gaz. Les services, parfois indispensables et pourtant éphémères. Après l'énergie, 60% du PIB mondial se compose de services dont certains, pas tous, loin de là, mais c'est à vous de voir, sont indispensables. Les soins, la justice, l'éducation, certains commerces, voire certaines activités récréatives, votre liste est peut-être différente de la mienne, sont des services qui, s'ils se réduisent, peuvent provoquer une diminution substantielle du niveau de vie d'une population. Parce que ces services sont des richesses qui, comme l'énergie, doivent être produites en continu, le PIB qui comptabilise leur production ne doit pas diminuer. L'entretien des richesses existantes. Enfin, si le PIB sert à mesurer la quantité de nouvelles richesses produites par l'humanité, il ne faut pas oublier qu'une partie d'entre elles sert à entretenir et à réparer d'anciennes richesses. En effet, les bâtiments vieillissent, les routes se creusent de nids de poules, les outils se cassent, les véhicules s'usent. Il faut prévoir des services d'entretien et de maintenance, ainsi que l'extraction et la transformation de nouvelles ressources minières pour fabriquer les pièces de rechange qui permettent à nos infrastructures et machines de rester fonctionnelles. Ainsi, une partie de l'activité enregistrée par le PIB correspond non pas à la valeur des richesses ajoutées à la pile existante, mais plutôt à celles qui viennent l'empêcher de se réduire. En termes techniques, la réduction de la valeur de la pile existante s'appelle la dépréciation du capital, une dépréciation que le PIB doit compenser année après année. Et pourquoi pas le produit intérieur net? Voilà pourquoi le PIB est brut au lieu d'être net. S'il existe bel et bien un produit intérieur net, PIB moins dépréciation égale PIN, qui tient compte de la dégradation de la pile de richesses, son utilisation en comptabilité est marginale. Notamment parce que le calcul de la dépréciation des richesses produites n'est absolument pas fiable. En effet, si les entreprises utilisent bien des méthodes de dépréciation afin de mesurer la perte de valeur de ce qu'elles possèdent, ce n'est pas le cas des particuliers. De plus, les méthodes de dépréciation utilisées par les entreprises livrent des données indicatives tout au plus. En effet, comment mesurer le degré d'usure d'une machine? En évaluant son prix de revente? Il existe de nombreuses machines pour lesquelles le prix de revente est une information extrêmement difficile à obtenir, à moins de mettre effectivement ces machines en vente et d'attendre qu'un acheteur morde à l'hameçon. Plus difficile encore, comment mesurer le degré d'usure d'un bâtiment dont le prix augmente? Imaginez le calvaire comptable. Parce que les biens immobiliers s'usent, il faudrait pouvoir mesurer leur dépréciation, mais parce qu'ils ont tendance à prendre de la valeur, le principal outil de mesure, le prix, ne peut pas être utilisé. En conclusion, le PIB est un véritable fourre-tout. Il ne distingue pas les flux de richesses qui s'accumulent, nouvelles connaissances, machines et infrastructures, des flux de richesses qui servent à entretenir les anciennes richesses accumulées, réparation et maintenance, des flux de richesses énergétiques desquels dépendent l'ensemble de nos activités, nourriture et carburant, des flux de richesses correspondant à des services indispensables, soins, éducation, justice, commerce, transport, des autres flux de richesses associés à des services dont on pourrait se passer. Parce que le PIB mélange richesses à produire en continu, richesses d'entretien et richesses stockables, on ne sait plus très bien si une diminution du PIB correspond effectivement à un simple ralentissement de l'enrichissement ou à un véritable appauvrissement. Mister PIB ne valorise pas les richesses naturelles. En plus de tout mélanger, le PIB ne comptabilise pas de nombreuses richesses. Par exemple, combien coûte un baril de pétrole selon vous? Je vous vois dégainer votre smartphone pour faire une recherche Google. Réponse, autour de $60. Le problème, c'est que le prix correspond plus ou moins au coût d'extraction du pétrole, mais pas à son coût de fabrication par la nature pendant des millions d'années. Or, ma question porte justement sur ce deuxième aspect. Combien coûte la fabrication du pétrole que l'on met dans un baril? Si demain matin vous trouviez du pétrole au fond de votre jardin, combien devriez-vous rémunérer Dame Nature pour avoir fabriqué ce pétrole? Une question stupide, n'est-ce pas? On ne peut pas rémunérer Dame Nature. L'air que nous respirons, le soleil qui brille dans le ciel, le pétrole, le gaz, le charbon, les différents minerais, les abeilles qui pollinisent les fleurs, les coccinelles qui mangent les pucerons, les poissons dans l'océan, tout cela est parfaitement gratuit. La nature et tous les biens et services qu'elle nous offre sont gratuits et donc n'ont pas de valeur au regard du PIB. Vers une marchandisation de la nature? Il s'agit encore de la différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. Le PIB ne mesure que la seconde, par le biais des prix. Or, pour qu'une valeur d'échange s'établisse, il faut que l'échange se fasse entre des offreurs et des demandeurs, capables de négocier un prix. Parce que la nature ne peut pas entrer dans ce type de négociation, les biens et les services qu'elle fournit, qui possèdent pourtant une valeur d'usage extrêmement importante, ont une valeur d'échange nulle. C'est la raison principale qui explique pourquoi nous avons tant de mal à faire face aux défis environnementaux.